Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à toutes et à tous. Il est 7h33. Voici maintenant une rediffusion des meilleurs moments du Grand Témoin, l'émission phare animée par Louis Dauphresne.
Le Grand Témoin.
Le Grand Témoin.
Louis Dauphresne.
Allez, une question classique. Le christianisme est-il encore un point dur dans la société ou s'est-il liquéfié comme un cachet d'aspirine ou d'Alka-Seltzer? On va voir. C'est Christophe H. Duval qui nous en parlera dans un instant. On en voit aujourd'hui les bulles remonter à la surface. Bref, la foi catholique n'est-elle plus qu'une bulle? C'est une question à se poser. Certains le pensent, d'autres non. Tous réfléchissent à la meilleure manière d'agir pour être présent au monde, avoir quelque influence. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire. Il y avait la journée mondiale contre la pauvreté le 19 novembre et le pape François est en première ligne sur ce front-là. Il y a de multitudes de manières de se déployer. Et puis il y a aussi une manière, j'allais dire un petit peu, pas forcément provocatrice, mais en tout cas une manière offensive. C'est celle que notre grand témoin a choisie à travers un ouvrage qui s'appelle « Vous serez dans la joie ». Et il parle de « coming out », figurez-vous. Alors c'est généralement une expression qui n'est pas employée pour les chrétiens. On va voir ce qu'elle recouvre avec lui. Bonjour Christophe H. Duval.
Bonjour Louis Dauphresne et bonjour chers auditeurs de Radio Notre-Dame.
Alors vous êtes haut fonctionnaire, conseiller d'État, vous êtes aussi passé par l'expérience de la Manif pour tous. Est-ce qu'on peut attaquer comme ça parce que ça explique quelque chose dans votre parcours?
Alors d'abord, surtout, me permettre de remettre un tout petit peu les pendules à l'heure, dans la mesure où, bien sûr, je m'exprime ici à titre personnel. Bon, vous dites ce que je fais dans la vie, et c'est bien normal. Je ne suis ni médecin, ni agriculteur, ni épicier. Donc, effectivement, je suis haut fonctionnaire d'abord, et j'exerce dans l'ordre de ministère de la justice. Mais évidemment, c'est à titre strictement personnel que j'interviens.
Mais ce n'est pas interdit par la loi de confesser quelque chose quand voilà, on est...
En tout cas, ce n'est pas interdit de dire
dans l'appareil
d'État. Le métier que l'on fait. Mais alors ensuite, évidemment, bien sûr, je suis pleinement obéissant aux règles de déontologie. Et donc, voilà.
Mais est-ce que c'est un problème de se dire catholique en France quand on est haut fonctionnaire?
Mais par contre, effectivement, oui, c'est ça qui peut effectivement interpeller quelque peu. C'est-à-dire... pourquoi ce rapport à la laïcité à la française qui n'est pas vécu de la même manière? Il y a beaucoup d'États occidentaux, parfaitement démocratiques, parfaitement libéraux, qui n'ont pas du tout ce même rapport à la laïcité. Et là, c'est un questionnement que nous devrions avoir. Hein. Peut-être qu'effectivement, historiquement, les catholiques ont concouru à ne pas faire la bonne lecture de la laïcité, avec une république de combat qui des années 1905-1910. Et effectivement, peut-être a-t-on cédé trop facilement à cette lecture, un petit peu belliciste de la laïcité. Bon, voilà,
ça peut être une explication, mais en tout cas, vous n'avez pas voulu vous créer des problèmes avec ça. Et est-ce que ça va vous en créer? Est-ce que c'est en soi une source de conflit que de se déclarer de cette façon-là? Parce que coming out, expliquez pourquoi c'est un coming out.
Alors, d'abord, coming out, effectivement, c'est vrai que je le vois comme ça. C'est d'abord une forme d'hommage qui va un peu surprendre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les... Alors, le coming out, c'est effectivement les personnes homosexuelles qui se sont déclarées homosexuelles dans les années 70, 80, 90.
Alors qu'elles le cachaient.
Elles le cachaient. Elles étaient discriminées, elles avaient des moqueries, etc. Et donc, il y a eu une forme de courage de la part de ces personnes de se déclarer homosexuelles. Et ensuite... une forme aussi d'abnégation, de foi, on pourrait presque dire, de vouloir transformer la société en fonction du regard qui est le leur. Voilà. Et moi, je dis chapeau, voilà, je dis chapeau, et je dis, nous chrétiens, finalement, c'est nous qui avons mis sous le boisseau, quelque part, souvent nos idées, nos convictions, alors qu'eux, voilà, ils nous donnent un exemple qui est presque un exemple de celui des premiers chrétiens. Hein, c'est-à-dire, effectivement, dans l'ambiance persécutatrice de l'Empire romain, les premiers chrétiens se déclaraient. Et là, effectivement, les personnes homosexuelles, dans l'ambiance un peu coincée peut-être sur certains sujets ou un peu discriminante sur d'autres de l'Occident des années 70-80, ils s'avouaient, ils se déclaraient. Et moi, je voudrais faire que on soit comme eux, qu'on ait le courage de nos convictions. Et si on est chrétien, on le dit. Dans la mesure où il n'y a pas de
conflit. Donc on sort son petit drapeau.
On sort son drapeau, absolument. Mmh. Oui. Son drapeau arc-en-ciel. Mmh. N'oublions pas que le drapeau arc-en-ciel, c'est celui de Noé. C'est celui de l'Arche de Noé. Mmh. Donc c'est le nôtre. C'est celui du Premier Testament. C'est celui de la Bible. Il faut le brandir.
D'accord, donc ça suffit de sortir son drapeau. L'idée de sortir son drapeau, c'est en soi, parce que tout le monde sort son drapeau aujourd'hui. Donc ça n'est jamais qu'un drapeau de plus.
Bah, c'est pas sûr que justement tout le monde sort son drapeau. En tous les cas, effectivement, bon, les personnes homosexuelles et les lobbies qui les soutiennent, eux, sortent leur drapeau. Mmh. Bah, les chrétiens, vous savez, comme je dis dans mon livre, hein, dans la rue, qui voit-on finalement ? On voit surtout effectivement les prosélytes musulmans hein, qui font du travail. On voit effectivement un petit peu les évangélistes martiniquais au coin du métro qui vendent la Bible. Et c'est charmant, mais les chrétiens canal historique, on ne les voit pas trop. Hein. Comme dit le pape François, ils sont beaucoup au fond de la sacristie.
Alors, je parlais de Manif pour tous au départ. Le lien, il faut quand même le faire.
Alors, le lien, effectivement, c'est-à-dire que moi, j'ai eu un coup de pied au derrière, si je puis dire. Tout ça en relation avec une réflexion personnelle très approfondie, très, très angoissée finalement de la parabole des talents. Qu'ai-je fait de mon talent ? Voilà, moi j'ai reçu un tout petit talent, pas cinq, pas deux comme dans les paraboles, j'en ai reçu qu'un seul. Et je ne faisais pas grand-chose. Bon. Alors effectivement, c'est vrai que les événements de 2012-2013 m'ont fait dire « Bah oui, mais à quoi es-tu utile et que fais-tu » Donc ces combats anthropologiques, je précise bien anthropologiques, m'ont réveillé. De là, comme dans la vie privée, mon hobby, c'était le théâtre, le spectacle vivant, et que j'étais metteur en scène amateur d'une petite troupe en province et que je faisais du spectacle, je me suis dit aussi, ça a été un enclenchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ces spectacles du répertoire ou spectacles historiques voilà, qui n'ont strictement rien à voir avec éventuellement une évangélisation. Je vais monter un premier spectacle sur les évangiles. Et ça a été complètement pour moi voilà, l'engrenage de me dire, ben, je suis en train de mettre peut-être dans la banque du bon Dieu ce tout petit talent qu'il m'avait donné. Et ça m'a transformé à la manière de Nicodème. Je me suis retransformé, je me suis reconverti, je me suis rebaptisé.
Mais ma question, Christophe Hirschduval, c'est de savoir si on essaie d'analyser les choses, j'allais dire d'une manière un petit peu sociologique, si vous appartenez à ces personnes que l'institution Église a réussi à activer à l'occasion de la Manif pour tous. Ben, sinon, peut-être qu'on ne vous connaîtrait pas aujourd'hui, ou que vous ne seriez peut-être pas sorti du bois, si je puis dire.
C'est très vraisemblable, parce que c'est ce que j'appelle un peu l'ambiance à Casalzer. Voilà. Alors, à Casalzer, les auditeurs de Radio Notre-Dame peut-être ne savent plus trop ce que c'est, mais moi, dans les années 70, quand j'étais petit garçon, j'étais à la télévision, je voyais ces premières publicités d'un médicament
qui soit équipé.
Et voilà, les auditeurs vont peut-être entendre le bruit. Alors, c'était un comprimé qui soignait des maux de tête, on le mettait dans l'eau et on voyait à la télévision les effets, bien sûr, de ce médicament qui se désagrégeait dans l'eau. Ça faisait du bruit, ça faisait des bulles. Voilà, ça m'émerveillait quand j'étais petit garçon. Et évidemment, que fait ce comprimé ? Ben, il se dissout progressivement dans l'eau. Et quelque part, nous autres chrétiens, c'est vrai que nous nous dissolvons petit à petit dans l'eau du système. Dans Saint Jean fait dire à Jésus, que j'appelle Yeshua, le monde.
Remarquez, ça fait du bruit, hein, ce dissolvant.
Et moi, j'appelle ça, finalement, je pense que Yeshua viendrait aujourd'hui, s'incarnerait aujourd'hui, il parlerait de l'establishment, du système. Mmh. Voilà, c'est ça le monde, le système, l'establishment.
L'embourgeoisement, en fait.
L'embourgeoisement, bien sûr, l'embourgeoisement aussi. Et la mondanisation, comme dit le pape François, génial terme. Et voilà, et il nous dissout progressivement.
Mondanisation.
Et à la fin, ben, il ne reste plus que les petites particules blanches autour. Voilà. Et il ne reste plus qu'à boire un petit coup, ce que je vais faire.
Allez-y.
Et on avale l'eau du système.
Ouais. Voilà.
Elle nous a envahis progressivement, elle nous a anesthésiés.
C'est ça.
Tout le contraire de ce qu'ont fait les premiers chrétiens dans les trois premiers siècles de l'Empire romain. Ils ne se sont pas laissés anesthésier.
Qu'ils ont fait ?
Ils sont sortis sur leur toge, et avec leur poisson dessiné, ictus. Ils sont affirmés.
Si vous faites ça et que vous sortez dans la rue comme ça, vous allez vous retrouver à Sainte-Anne, c'est tout.
Oui, peut-être. Mais il y a bien d'autres façons, évidemment, de sortir avec, avec évidemment, son drapeau chrétien. Il y a celui de la charité, il y a celui d'aller au-devant des SDF, il y a celui d'affirmer nos convictions. Il y a celui de ne pas renoncer, de ne pas rougir des évangiles, hein, comme dit saint Paul.
Alors, Christophe Hirschduval, on va voir votre itinéraire avec Marion Duchesne. C'est en Algérie, à Médéa, que vous voyez le jour en 61. Votre père est officier de l'armée de terre. Dès la seconde, vous rêvez d'intégrer la marine et plus exactement de devenir officier sur la Jeanne. Marion Duchesne.
C'est en lisant « Tour du monde pour un pacha » de Philippe Cavalier que j'ai découvert la Jeanne, raconte Christophe Eauche-Duval. Un rêve d'enfant devenu réalité après des études de droit. 10 ans comme officier de marine, il intègre ensuite le Conseil d'État. On peut avoir le sentiment d'une certaine distanciation du juge par rapport au justiciable, mais il a conscience que le justiciable est humain, répète Christophe Eauche-Duval. Si le droit est une science avec son caractère rationnel, son interprétation rejoint celle de l'Évangile. Le consensus relève de la collégialité. Les évangiles, ceux baptisés, issus d'une famille catholique, les a redécouverts il y a peu. Depuis 15 ans, pour m'évader de mon travail, je participais à des spectacles vivants, explique Christophe Eauche-Duval. Marqué par la cinécénie du Puy du Fou, j'ai décidé de changer de registre et de mettre en scène les textes de l'évangile. Il intitule son premier spectacle « Yeshua ». Jésus, en araméen, et choisit la nature comme décor. Un bouleversement intérieur, dit-il, une reconversion à la manière de Nicodème. Je suis René. C'est ce qu'il raconte dans « Vous serez dans la joie », le coming out chrétien d'un haut fonctionnaire aux éditions Arthège. Ce spectacle m'a aidé à sortir de mon état gazeux de chrétien dilué dans l'eau du système, ajoute Christophe Eauche-Duval. Jésus est pour moi un coach. Très attaché à la parabole des talents, le magistrat a donc décidé de se mettre au service de son mécène. Son prochain spectacle, une crèche vivante dans Paris, car, conclut Christophe Eauche-Duval, il faut aussi sortir les chrétiens hors des églises.
Alors voilà précisément une bonne illustration, une crèche vivante dans Paris. Ce n'est pas pour cette année, hein, une précision, hein. C'est en cours de préparation.
C'est effectivement, il y a un an de préparation, ce sera donc pour Noël 2018.
Bon, comment ça se passe? C'est une crèche itinérante, une crèche...
En quelques mots, le projet est effectivement d'abord de jouer le texte exact des évangiles, premier point, le songe de Joseph, et puis les bergers de Bethléem. Et donc, il y aura effectivement une transhumance.
C'est ce que je vois sur des photos. Non mais attendez, il faut que vous expliquiez quand même, parce que sur la photo, je vois, elle sera accompagnée par le public, par une mini-transhumance. Mais attendez, il y a à peu près 200 moutons, là.
Il n'y en aura peut-être pas 200, là, la photo, peut-être, évidemment, bien sûr. Mais il y aura certainement une bonne cinquantaine de moutons. Ce sera une première, effectivement. On a déjà sélectionné une rue qui s'y prête très bien pour qu'effectivement, on remonte, on accompagne des vrais bergers galiléens, ou de la Judée, plutôt, exactement, de l'époque, hein, costumés, bien sûr, en berger de l'époque. Et on va remonter avec eux, avec des moutons, des vrais moutons, qui seront encadrés par des chiens bergers. C'est une association, je tiens à le signaler, qui est spécialisée dans le dressage des chiens de bergers. Et on va remonter avec ces moutons, évidemment, et après on va arriver au lieu de la nativité, qui est un jardin public qui aussi a été sélectionné en fonction de ces différents critères, où se jouera le dernier tableau. On commence par le premier tableau, qui sera le songe de Joseph, puis les bergers de Bethléem. On remonte avec eux dans cette transhumance. Il y a l'idée aussi de marche en avant. Hein.
On marche,
on ne sait pas où on va d'ailleurs. On suit les bergers, mais eux-mêmes d'ailleurs ne savaient pas où ça allait le mener, cette histoire.
C'est génial, personne ne sait où
on va. Et on arrive effectivement dans un jardin public où on assistera à la découverte de la naissance de cet enfant qui va bouleverser l'humanité, parce que 2000 ans plus tard, on en parle encore.
Hein. L'enfant, c'est un vrai?
L'enfant, ce sera évidemment un vrai. Alors le casting aujourd'hui n'a pas été fait. Hein.
On peut y participer?
Alors,
parce que c'est la compagnie Richard. Dites-nous un peu comment ça se passe, parce que ça peut intéresser des personnes qui nous écoutent en se disant c'est un vrai événement à Paris.
Oui.
Ce sera peut-être d'ailleurs médiatisé, parce que si vous avez du mouvement, ça va être médiatisé.
La médiatisation se mettra en place, un site internet sera créé, on donnera toutes les références. Je ne doute pas un instant que Radio Notre-Dame sera partenaire média de ce projet. Effectivement, on aura besoin de beaucoup de bénévoles, alors peut-être moins dans les acteurs et comédiens, que surtout dans la structure, j'allais dire, d'encadrement, parce qu'évidemment, les contraintes, comme vous l'avez... Enfin, comme nous sommes en train de le découvrir, les contraintes d'ordre public, Vigipirate et autres, fait qu'évidemment on nous met la barre très très haut. Il faudra donc beaucoup de bénévoles en gilet fluo pour nous aider, bien sûr, parce qu'il peut y avoir du monde, c'est évident, et du monde au moment des fêtes de Noël. Et voilà, c'est. Mais donc on lancera l'appel.
Si vous êtes intéressé et vous écoutez justement notre discussion en ce moment, sachez donc qu'il s'agit d'un spectacle de rue gratuit, une mini-transhumance, une crèche théâtralisée, que c'est prévu pour décembre 2018, donc il est temps de s'organiser, et que ça aura lieu à Paris. Je vois que la première, c'est rue du Rendez-vous, Paris 12e. Vous avez déjà l'adresse.
On a effectivement déjà sélectionné un lieu, une rue et un jardin public qui vraiment tombe du ciel.
Donc ça, ça fait partie du coming out, hein, Christophe Hocheduval, d'une certaine façon. Vous voudriez que les... Parce que si on en parle, c'est aussi parce que c'est relié directement à votre, votre histoire, votre, vos spectacles aussi, parce que j'aimerais qu'on dise un mot sur vos spectacles. Mais l'idée, c'est de rendre visible dans les rues, notamment dans les rues, tout simplement ce qui est de l'ordre de l'évangile.
Voilà, c'est tout le sens de mon livre, évidemment, que je vous invite à lire pour essayer de comprendre à la fois comment ça m'est arrivé, que ça m'est tombé dessus, voilà, et quelles sont les analyses que j'en étais amené à faire, que j'en fais aujourd'hui, de l'actualité, de la vie de nos concitoyens chrétiens sous notre 5e République, sous notre 21e siècle. Et tout ça, effectivement, bon, je l'explique. Hein, parce qu'évidemment, bien sûr, ce travail sur les évangiles que j'ai été amené à faire à l'occasion de ce spectacle, au fond, finalement, m'a fait aussi redécouvrir l'extraordinaire actualité des évangiles. Peut-être que ça m'a sauté encore plus aux yeux que ça ne le faisait. Les évangiles, c'est pas un texte mort, c'est pas un texte des antiquités. C'est pas l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. D'ailleurs, on les travaille pas assez. On les travaille plus assez. On ne les apprend plus assez. Ça aussi, ça fait partie d'une espèce de prise de conscience que je me suis faite. Pourquoi moi-même, je cherche à les faire passer sous forme de spectacle vivant ? Parce que c'est un des canaux aussi qui pourrait être utilisé pour mieux faire connaître l'Évangile. Peut-être même à nos co-religionnaires, hein, ce qui est le comble. Mais surtout aussi à nos frères païens et publicains du monde moderne, qui ne soient pas vexés par cette expression. Je la prends au même sens que quand Saint Paul débarquait sur l'agora d'Athènes, il avait affaire autour de lui à des, entre guillemets, païens, qui évidemment ne connaissaient rien à Israël, à la Bible, à toutes ces choses-là. Et nous en sommes arrivés au même point. Nos contemporains ont été complètement, sans plus de culture générale, parce que l'éducation nationale ne leur en offre plus. Et alors, si les gens n'ont plus de culture générale, ils ont déjà encore moins de culture religieuse. C'est effrayant. Quand on voit ces pauvres gens qui sont devant le tympan d'une église, ils n'y comprennent plus rien. Au musée du Louvre, devant une peinture qui évoque une scène de la Bible, elle leur passe complètement inaperçue.
Et pourtant, ils
même
vont
au
cathé,
on n'apprend plus l'Évangile. J'étais un peu provocateur, mais je me cache derrière mon ami et défunt Henri Tizot, l'imitateur de la voix du général de Gaulle, qui me racontait un jour avec sa voix truculente, il me dit « Je suis allé visiter une aumônerie catholique. » Et à la fin, je leur ai dit « Mais et quand est-ce qu'on apprend les Évangiles ?» Mais oui, il a raison.
À quoi est-ce dû, ça?
Eh bien, peut-être effectivement à cette eau d'Alcacelzer dont je parlais. Voilà, on s'est un peu dilué, on s'est un peu assoupi. Réveillez-vous, n'ayez pas peur, a dit Jean-Paul II. Il faut 20 ans pour que ça fasse son effet. Hein.
Alors maintenant, on se retrouve dans une situation un petit peu complexe. Tenez, on va prendre un élément dans l'actualité que vous avez écouté d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'on en parlait dans notre, aux alentours de 7h10 ce matin. La question du Notre Père. Voyez-vous, le Notre Père va changer dans sa formulation. Le 3 décembre, on va passer de... Alors, on est passé, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Je vais faire les choses de manière courte. Avant, on disait... Alors, avant, on disait ne nous laissez pas... On vous voyait. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Puis, on a commencé à dire ne nous soumets pas à la tentation. Et maintenant, ça va changer. On va passer à ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça change donc le 3 décembre. Il y a toute une controverse à propos du changement de cette appellation, enfin de cette appellation, de cette formulation, pour être précis. C'est Raphaël Enthoven, philosophe, qui a déclenché la polémique et chroniqueur sur une autre radio, Europe 1, et qui a dit qu'en fait, c'était une façon pour l'Église de dégager de son vocabulaire le terme soumission, soumis, pour justement se distinguer de l'islam. Et qu'il y a une forme d'islamophobie dans ce changement de vocabulaire. Alors ça veut dire qu'on n'est plus seul sur ce marché en quelque sorte de l'expression religieuse et qu'aujourd'hui il y a quantité de paramètres. Un autre paramètre, et je vais vous faire réagir en même temps à cela, c'est que si vous faites un spectacle de rue, aujourd'hui qui s'apparente à une page d'évangile, on pourra vous dire, mais dans ce cas, les prières de rue des musulmans, il faut les tolérer parce qu'eux aussi, c'est une façon d'exprimer, d'extérioriser leur foi. Et comme vous lancez un appel pour que la foi soit extériorisée, il n'y a pas de raison que la foi des autres ne le soit pas également.
Mais bien sûr.
Alors, qu'est-ce que vous dites, Christophe Hocheduval, sur ces deux points ?
Il y a deux questions dans votre, dans votre remarque. Alors la première sur l'affaire du Notre-Père que je découvre en même temps que vous en écoutant Radio Notre-Dame. C'est une polémique ridicule, mais moi je rebondis toujours d'une manière un peu souvent inattendue. D'abord sur Notre-Père lui-même, à l'occasion de ce spectacle Yeshua que j'ai fait, effectivement, il y avait une scène où Jésus, bien sûr, Yeshua, présentait le Notre-Père. Et je l'ai fait dire en araméen, comme probablement Yeshua l'a d'abord appris et fait apprendre à ses apôtres. Ça change beaucoup de choses, ne serait-ce que par le fait qu'en araméen, on dit Abba. Et lui, il a dit Abba, ce qui veut dire papa. C'est plus que mon père, c'est papa. Bon, c'est une petite remarque. Mm-hmm. Ensuite, effectivement, le texte qui, à l'origine, était en araméen ou en hébreu, puis traduit en grec, puis traduit en latin, puis traduit dans les langues vernaculaires, a effectivement été déformé. C'est incontestable. Moi, je renvoie aux travaux d'un prêtre admirable, d'un bibliste scientifique remarquable, qui était le père Jean Carmignac, qui dans les années 70, c'était un spécialiste absolument renommé au plan international, et il a très vite alerté sur le fait que ce n'était pas la bonne traduction. Alors je renvoie à ses travaux, il avait dit d'ailleurs que la meilleure traduction probablement serait de dire « garde-nous de consentir à la tentation ». Voilà, parce que c'est une prière sémitique, et donc déjà c'est difficile de traduire du sémitique en grec, et ensuite du grec en latin, et du latin en langue vernaculaire. Mais dès le départ, on s'est planté. Et effectivement, revenir à la bonne traduction, c'est tout à fait normal, parce que moi aussi, je suis comme les protestants, sola scriptura. Il faut revenir aux vrais textes, aux textes fondamentaux. Alors, bonne traduction, c'est absolument important. C'est tout à fait désolant qu'effectivement, on se soit laissé embarquer dans une traduction francophone qui n'était pas bonne. Et alors, le coup effectivement, du 3 décembre prochain, changer cette formule. Évidemment, c'est ce qui provoque la polémique, mais c'est un peu grotesque et ridicule. Ça fait penser un peu comme, vous savez, le passage du franc à l'euro. Alors, avant, il fallait parler en franc et maintenant, il faut parler en euro. Donc, tout ça, effectivement, ça a un peu été mal géré. Voilà.
Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
C'est la question que je vous pose. Je vous renvoie à ces travaux. Les historiens de l'histoire religieuse me comprendront. Le père Jean Carmignac, années 70, avait fait d'innombrables thèses et avertissements pour dire que vous ne prenez pas la bonne traduction et vous vous plantez.
En fait, pour répondre à une forme, je ne sais pas, mais pour répondre à une forme...
La réponse, en tout cas, elle était logique. C'est Saint Jacques qui, dans son épître, a bien rappelé qu'évidemment que jamais, Dieu ne peut nous soumettre au péché, à la tentation. C'est totalement absurde. Il cherche à nous en préserver.
Il y a une sorte de surchauffe sur ce mot de soumettre, aujourd'hui.
Oui, alors cette surchauffe liée,
l'islam, soumission,
liée à l'islam,
soumettre, etc.
Je ne la comprends pas. Mais par contre, l'islam, ça me permet maintenant de répondre à votre deuxième question.
Très rapidement, parce qu'on a 30 secondes.
Les prières de rue, écoutez, moi je suis pour la liberté des cultes. Et comme je dis, je ne pétitionnerai jamais, comme chrétien, pour dire il faut interdire les prières de rue. Parce que je pense que nous, il faut aussi qu'on y soit dans la rue, avec les processions, la fête de Dieu. Alors si on interdit aux musulmans, ce sera aussi pour nous.
Christophe et H. Duval, on va se retrouver juste après les infos.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Thank you.
bon réveil en musique avec Mozart sur Radio Notre-Dame. Bientôt 8h et les informations. Juste après, vous avez rendez-vous avec la suite des meilleurs moments du grand témoin de Louis Dauphresne. Ce matin, il reçoit Christophe Hirsch-Duval, l'auteur de « Vous serez dans la joie, coming out chrétien d'un haut fonctionnaire ». C'est aux éditions, Arthège. Il est 8h, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle journée de grève en vue. Ce sera le 9 octobre prochain. Plusieurs syndicats, dont la CGT et Force Ouvrière contre la politique CRE, contribuent à détruire notre modèle social et à creuser les inégalités. Selon un sondage BVA diffusé ce vendredi, seuls 28% des Français considèrent aujourd'hui que la politique de l'exécutif est juste et seuls 27% l'estiment efficace. La politique, toujours en France, et cette question, comment payera-t-on nos impôts l'année prochaine ? Le prélèvement à la source de l'impôt devait démarrer au 1er janvier, mais ce n'est certain. Emmanuel Macron a indiqué jeudi qu'il attendait, je cite, des réponses précises avant de décider. Le but de cette réforme, c'est que l'impôt soit collecté directement sur les salaires ou sur les retraites, et non plus un an après, comme c'est le cas actuellement. Cette mesure, initiée sous le quinquennat de François Hollande, avait déjà été retardée d'un an par le gouvernement actuel. À son arrivée au plus haut pouvoir. Plus jamais, ce sont les mots du président de la conférence des évêques catholiques australiens, l'archevêque Mark Coleridge. Une commission d'enquête australienne a mis en lumière ces derniers mois de nombreux cas d'abus sexuels commis sur des enfants entre 1950 et 2010, notamment de la part de religieux catholiques australiens. Beaucoup d'évêques n'ont pas écouté, n'ont pas cru et n'ont pas agi, a encore dit l'archevêque, qui s'est engagé à ne plus jamais tolérer les abus pédophiles au sein de l'Église australienne. En Allemagne, ils étaient un millier hier soir à Chemnitz, un millier de personnes rassemblées à l'appel de l'extrême droite allemande pour dénoncer la politique migratoire d'Angela Merkel. L'élément déclencheur, c'est la mort d'un Allemand de 35 ans tué le week-end dernier à coups de couteau dans la ville. La police a arrêté deux suspects, un Irakien et un Syrien de 22 et 23 ans. Le parti anti-migrant alternatif pour l'Allemagne, l'AFD, a fait une entrée fracassante à la Chambre des députés en 2017 et est le premier parti dans la région de Chemnitz avec 27% des voix. Et pendant ce temps, en Syrie, des pourparlers de la dernière chance sont en cours depuis plusieurs jours pour tenter d'éviter un assaut du régime de Bachar al-Assad sur Idlib, le dernier grand bastion rebelle en Syrie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre, je cite, les risques d'une catastrophe humanitaire en cas d'opération militaire à grande échelle. Et puis en football, les champions du monde sont de retour. Didier Deschamps a communiqué hier soir la liste des joueurs retenus pour affronter l'Allemagne et les Pays-Bas le 6 et 9 septembre prochain. Et sans surprise, presque tous les champions du monde seront là. Le public français pourra donc revoir tous les joueurs qui ont décroché le Graal cet été. 8h03, très bel été à notre écoute. Dans le programme de la demi-heure qui arrive, vous pourrez écouter l'évangile de ce vendredi dans une vingtaine de minutes à peu près. Et puis bien sûr, l'actualité internationale sera au rendez-vous dans le journal de Radio Vatican, votre rendez-vous à 8h30. Mais tout de suite, on poursuit la rediffusion du Grand Témoin avec Louis Dauphresne.
Alors, Christophe Hirsch-Duval, pas mal de choses eu égard à cette réflexion de Gérard Leclerc. La cageophobe, on ne va pas se laisser y enfermer, bien sûr. Et d'ailleurs, il fait donc cette distinction entre ce qui relève de l'appel à la haine et ce qui relève simplement du discernement et de l'étude libre dans des sociétés démocratiques des phénomènes nouveaux. Et l'islam est un phénomène relativement nouveau. Alors, j'aurais voulu savoir parce que vous avez dit tout à l'heure, moi je ne m'insurgerai jamais contre les prières de rue, etc., au nom du fait que la foi doit être extériorisé. Jusqu'où allez-vous dans ce domaine-là de l'extériorisation de la foi ?
D'abord,
vous qui êtes magistrat, je le rappelle.
Oui, mais je ne m'exprime pas comme magistrat, je le précise encore une fois. Mais peut-être que ma profession m'aide aussi peut-être à m'élever au-dessus de... C'est parfois ce qui peut être des réflexions de terrain hein, ou des réflexions, j'allais dire, animales, hein, ce que pouvons nous ressentir d'un premier jet. Sur les musulmans, moi j'ai deux chapitres dans mon livre auxquels je renvoie.
Vous dites chapeau bas.
Alors ce sont des chapitres que j'ai écrits bien avant les événements dramatiques que l'on connaît en France, d'attentats que l'on a connus en France à Charlie Hebdo. Effectivement, femme musulmane voilée chapeau bas, et puis un autre chapitre qui s'intitule « Une mosquée qui s'ouvre, c'est 1000 catholiques qui ont renoncé ». Et dans ces chapitres, que je n'ai pas voulu modifier une seule virgule, parce que je me dis, si je le modifie, c'est-à-dire que j'ai un prisme qui était complètement lié à l'actualité, je veux dire, à la manière la plus vile du terme, c'est-à-dire comme une girouette, quoi. Hein. Bon, je ne crois pas à essayer d'avoir une réflexion de girouette. Oui, chapeau bas, parce qu'effectivement, il faut qu'on se mette à réfléchir qu'est-ce que représente l'islam, pourquoi s'est-il à ce point répandu, pourquoi quelque part aussi se réapproprie-t-il ces éléments de foi, alors extérieurs, qui sont effectivement le voile pour les femmes, les prières de rue, éventuellement pour les hommes. Il faut qu'on rechange complètement notre dialogue.
C'est tout sauf de l'Alcacézer.
Voilà, c'est tout sauf de l'Alcacézer pour eux. Eux, finalement, ils font l'expérience quelque part que nous avons faite dans les années 1905-1910, de la confrontation à un pouvoir séculier qu'ils ne comprennent pas, qu'ils décodent mal. Hein. Ça ne rentre pas dans leur code et ils résistent. Voilà, ils résistent. Bon, alors on verra jusqu'où ira la résistance. C'est pas mon affaire, c'est la leur. Mais moi, j'en tire quelques éléments.
Parce que vous
estimez
qu'ils sont agressés s'ils résistent. Mais comme l'Église catholique l'a été.
Bien sûr qu'ils se sentent agressés d'une certaine façon dans ce qui est l'expression de leur conviction et de leur capacité d'exprimer leur foi. Bon. Sur l'expression publique de la foi, moi je ne pétitionnerai pas avec ceux qui demandent. Alors il peut y avoir des troubles liés à ces prières, etc. Je ne disconviens pas les inconvénients, les nuisances que ça peut représenter si elles ne sont pas régulées ou mal autorisées, etc. Mais en tout cas, l'idée même d'interdire la foi d'être dans la rue, mais si on s'y joint, il faut dire adieu définitivement alors aux processions de la fête de Dieu qui commençaient tout juste à réapparaître. L'étonnant, justement, c'est qu'on les ait fait disparaître. Voilà. Et les ayant fait disparaître, nous n'avons plus laissé la rue qu'à qui ? Comme je le disais, soit aux laïcistes, laïcars, qui sont un peu étroits d'esprit, qui voudraient que dans la rue, il n'y ait rien, aux musulmans comme ils y sont, soit les seuls et derniers qui réapparaissent, c'est effectivement les évangélistes martiniquais auxquels je faisais allusion tout à l'heure à l'embouchure du métro qui distribue la Bible. Donc nous, chrétiens, peu importe lequel canal, qu'il soit le canal catholique, le canal évangélique ou d'autres, nous ne devons pas en partir parce que c'est saint Paul qui nous l'a donné comme exemple.
Mais être chrétien,
c'est sur l'agora qu'on doit évangéliser.
L'influence christianiste, ça se ramène à distribuer un tract à la sortie du métro.
Mais c'est bien... Oui, alors,
j'essaie de trouver des voies qui peuvent donner des idées à ceux qui nous écoutent éventuellement, qui peuvent
mais essayer, y a mille manières.
Mais qui ne savent pas comment en fait se positionner par rapport à un mouvement qui évince de plus en plus le christianisme.
Voilà, alors évidemment, bien sûr, il faut avoir de l'imagination. En même temps, je dis aux prêtres, entreprenez-nous, devenez des prêtres entrepreneurs, dites-nous éventuellement, prenez-nous par la main, dites-nous par exemple de faire des prières devant l'église, les gens rentrent de l'église, mettons les statues de saints à l'extérieur de l'église avec des photos fortes, on verra qu'il y a beaucoup de patients qui ne rentrent jamais dans l'église, et qui s'arrêteront pour mettre un photo fort. Non, mais il y a de milliers de possibilités de...
Sauf si ça devient payant, ils n'entreront plus dans l'église.
Voilà, si ça devient payant, bien sûr, ils ne rentreront plus dans l'église. Donc il y a mille et une façons de reprendre ce chemin de saint Paul, qu'il faisait sur l'agora. L'agora, c'est-à-dire la place publique. Il n'allait pas évangéliser en fermant à double tour les maisons de Corinthe, dans la maison de Corinthe ou d'Athènes ou d'ailleurs. Il sortait sur la place publique.
Christophe et Hoche Duval, pour avancer dans la discussion et faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, et en même temps faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Notre Père, la question de la parole finalement incertaine. Parce que pendant plus de 40 ans, y a des paroles qui changent aujourd'hui. C'est bien tard, pourrait-on se dire. Et ça laisse planer en quelque sorte une mauvaise image sur la crédibilité en fait, de ceux qui sont chargés de réguler ce qui doit être dit et pas dit. Bon. Vous dites, vous parlez de l'arianisme, qui a connu une extension foudroyante au début du christianisme. Mais enseigne-t-on encore l'histoire du christianisme, dites-vous ? Ceux qui nous enseignent que l'histoire sert à l'expérience humaine ont eux-mêmes oublié que l'arianisme n'a pas totalement disparu. Et vous semblez dire même, non seulement il n'a pas disparu, il a peut-être même triomphé comme la fausse doctrine la plus répandue encore aujourd'hui parmi les chrétiens contemporains. Voilà. Combien se disent « je suis chrétien » mais sans vraiment croire que Jésus est conçu du Saint-Esprit, né d'une vraie Vierge, fils réellement unique de cette mère. Ça, c'est vous qui parlez, hein, ce n'est pas moi. Nous disons « je suis chrétien » mais sans croire que Jésus est vraiment ressuscité, etc. Alors, l'arianisme, en fait, ça consiste à considérer que Jésus est juste un homme, que sa divinité est une sorte de métaphore, hein, c'est un peu ça.
Oui, alors évidemment...
Expliquez-nous d'abord le terme, parce que comme...
Alors bon, à l'heure du petit déjeuner, c'est peut-être effectivement un peu compliqué de se lancer longuement là-dedans, mais Arius, bon, ça a été un prêtre d'Alexandrie qui effectivement a répandu l'idée que Jésus est tellement extraordinaire qu'il n'est le Fils de Dieu que par allégorie, que par métaphore, hein, voilà, en quelque sorte. Mais qu'évidemment, bien sûr, c'était un homme extraordinaire qui... Un super prophète. Bon. Alors, donc en fait, il a introduit le relativisme. Voilà. On croit que le relativisme, c'est un débat des années 2000, enfin, en tout cas du 20e siècle. Pas du tout. Le relativisme, ça existait depuis toujours. Hein. Et même, pourrait-on dire, le relativisme, c'est même Satan qui, dans la tentation du désert, l'introduit. Hein. Si tu es le Fils de Dieu,
le si.
Jette-toi. Si. Et si, c'est pas sûr, hein, on peut en discuter, on peut en débattre, hein, voilà. Donc l'arianisme, effectivement, c'est vrai, c'est une façon de symboliser tous les relativismes que l'histoire du christianisme a toujours introduit pour venir mettre en doute la véracité des évangiles, la véracité aussi du message évangélique, la véracité de l'engagement chrétien. Donc je dis qu'il a triomphé parce que finalement c'est vrai qu'il a muté.
C'est fort quand vous dites qu'il a triomphé, oui, ça veut dire que vous dites que l'institution aujourd'hui est arienne en fait.
Bah parce qu'il a triomphé aussi parce que c'est ce que le monde, pour venir à notre Alcazar, c'est ce que le monde, c'est ce que le système, c'est ce que l'establishment peut éventuellement concéder à l'historicité de Jésus. Bon, d'accord, éventuellement, acceptons qu'il ait existé, mais il n'est pas plus que ce que Arius en a dit, et on vous demande de ne pas en croire davantage. Donc, vous êtes bien gentil, mais n'en faites pas davantage. Voilà. Et on tombe dans le panneau. On est tombé dans le panneau au temps d'Arius. Ça a failli emporter toute l'Église. Hein. On oublie l'histoire chrétienne, mais voilà, ça a failli emporter toute l'histoire de l'Église. Heureusement qu'il y a eu quelques... Saint Père de l'Église pour y résister, mais ils n'étaient pas nombreux. Hein. On l'oublie, ça aussi. Et voilà, ça s'est répercuté à plusieurs époques. Et évidemment, à notre époque imprégnée d'une fausse idée de la modernité, ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup
mais
aujourd'hui.
En fait, c'est l'un des aspects de l'embourgeoisement aujourd'hui.
C'est l'un des aspects de l'embourgeoisement, du basculement dans la mondanité, dans lequel, évidemment, bien sûr, l'Église qui n'a pas. Voilà, qui a parfois aussi y a cédé sous le Moyen-Âge, sous la Renaissance. A pu quelque part aussi.
Donc la vraie question, elle est là en fait.
Il rebasculer aujourd'hui.
C'est que même on n'a pas forcément des gens qui y croient. C'est ça qu'on pourrait, en fait, si j'essaie de suivre ce que vous dites, c'est ça que vous dites.
Oui, absolument. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, c'est une vraie question, mais que de toute façon, qui sera toujours perpétuelle jusqu'à la fin des temps. Mais c'est une question qui se retravaille tout le temps et qui nous retravaille.
Non, parce qu'on a tendance à considérer que l'ennemi est toujours à l'extérieur, qu'on est agressé, ceci, cela, les chrétiens, machin. Alors en fait, non, c'est ce que vous dites, c'est un problème interne, c'est pas un problème externe.
Bah, c'est un problème interne, c'est un problème externe.
Les prières de rue des musulmans, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est que les chrétiens ne croient pas réellement ce qu'ils disent.
Oui, alors les prières de rue ne sont pas un problème. C'est des raccourcis, ça peut devenir un trouble, une nuisance si, encore une fois, ce n'est pas régulé. Mais en soi, je ne vois pas en quoi nous devrions, en tous les cas, nous y opposer en tant que chrétiens. Je dis bien en tant que chrétiens. En fait, on ne peut souhaiter que s'expriment les religions. Après, évidemment, je dis aussi dans mon livre, et j'y renvoie parce que c'est en lisant, bien sûr, la totalité de mes argumentations qu'on peut comprendre aussi mon analyse et mon raisonnement, je dis qu'il faut bien sûr revoir la façon dont nous dialoguons avec les musulmans. Moi, je ne suis pas du tout pour la théorie des stocks. Ce que j'appelle la théorie des stocks, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire c'est aussi ce à quoi nous avons cédé, peut-être aussi par néo-arianisme, c'est de dire à vous les musulmans, à nous les chrétiens, et personne ne s'en pique, et donc personne ne cherche à en débaucher d'autres. Mais pas du tout. Saint Paul, là aussi, il nous envoie évangéliser les néo-philistins, si je puis dire, en prenant l'expression l'évangile, les néo-cananéens, qui sont les musulmans. Ben, nous avons à faire ce travail vis-à-vis d'eux. Moi, je suis prêt à accepter, tolérer qu'ils fassent des prières dans la rue, parce qu'il faut qu'on accepte et qu'on tolère que nous fassions des prières dans la rue, parce qu'il faut effectivement que nous amenions les musulmans à découvrir qu'il y ait Yeshua et qu'il y ait cette force admirable qui manque considérablement dans la religion. Ils sont malheureux, les musulmans.
Mais ça veut dire que vous
installez un père.
Vous installez la concurrence religieuse dans l'espace public. C'est exactement à l'inverse de ce que la laïcité souhaite.
Ça peut-être, mais ça je m'en fiche complètement d'une certaine façon. Parce que le polythéisme, il a toujours été de tous les temps. Donc depuis le début du commencement, c'est une guerre des dieux, si je puis dire. Des dieux avec un petit D contre Dieu avec un grand D. Ça ne s'arrêtera jamais. Et parmi ces dieux, avec un petit D, ben effectivement, il y a eu, il y avait les dieux grecs, il y avait les dieux romains. Il y a aujourd'hui le dieu de Mahomet. Il y a encore les dieux de l'argent, le dieu du système, les dieux mammon, comme je les appelle aussi, mammon. Hein. Mammon, expression des évangiles qu'on ne comprend pas, qu'on a tort de réduire à l'expression d'argent. Non, tous les mammons de notre existence, depuis le début jusqu'à la fin des temps, sont tous ces dieux avec un petit D qu'on se donne pour les préférer aux vrais dieux. Le fric, notamment, bien sûr, mais ce n'est pas exclusivement. Le pouvoir, le sexe, etc. Les addictions, peu importe quelles qu'elles soient, c'est des mammons.
Alors, Christophe Hocheduval, on va écouter Camille Meyer qui va nous faire partager les résultats d'un... Non, pas un sondage. Ça n'a pas valeur de sondage.
Non, c'est plutôt une question. Voilà, on vous a demandé de réagir à cette question sur les réseaux sociaux. Comprenez-vous le changement du « ne nous soumet pas à la tentation, on ne nous laisse pas entrer en tentation ». Vous êtes 81% à répondre que oui, vous comprenez ce changement. Et 7% à nous demander des explications. Voilà, parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas d'où ça vient. Alors, explication évidemment qu'on va tenter de vous donner sur notre site internet. Et tout à l'heure, Christophe et Hocheduval, vous aviez cité le père Jean Carmignac. Alors du coup, on va aller vérifier, on va aller regarder exactement ce qu'il a dit, puis on va essayer d'ordonner ça à nos auditeurs.
Grande figure qui peut servir de référence en la matière sur cette question du changement de la sixième de bande du Notre-Père. Mais en tout cas, il y a quand même une majorité écrasante. Une
majorité écrasante, voilà. Pourquoi. Ils comprennent pourquoi.
Voilà. Juste, merci Camille Meyer. Un autre point, Christophe Hocheduval, il nous reste quelques minutes, je voulais absolument vous poser la question. Il y a eu la controverse sur la statue de Jean-Paul II à Plouermel et le Conseil d'État a rendu une décision qui doit être appliqué dans les 6 mois, donc il y a à peu près grosso modo 6 mois pour appliquer cette décision, c'est-à-dire retirer la croix qui surplombe la statue de Jean-Paul II dans cette petite ville du Morbihan. Vous avez suivi cette histoire ?
Oui, bien sûr.
En interne, vous l'avez suivi ou pas ?
Alors,
un peu ?
Non, absolument pas directement, parce qu'il y a de multiples formations au sein du Conseil d'État, mais évidemment, vous me permettrez de ne pas commenter les arrêts du Conseil d'État. Ou alors il faudrait que je commente un arrêt.
Est-ce que vous en avez parlé à la
Cafette de 1875, mais je ne commente jamais les arrêts du Conseil d'État. Mais en revanche, je peux quand même répondre à votre question dans le sens où moi je rebondis toujours. Hein. J'ai vu cette polémique qui s'est lancée sur montre ta croix, hashtag montre ta croix. Mais bien sûr qu'il faut montrer sa croix. Mais moi je rappelle aussi à nos frères chrétiens qui nous écoutent, il faut d'abord commencer par montrer la croix que l'on a le droit, même le devoir d'entretenir. Parce que ce qu'il faut savoir, si vous prenez un peu votre voiture, vous prenez dans les campagnes, le nombre inimaginable de croix, de vierges, de calvaires d'avant 1905 qui sont rouillés jusqu'à l'os, qui sont dans la broussaille, dans les ronces et qui nous laissent totalement indifférents. Moi, j'aimerais que Montre ta croix soit aussi l'occasion pour les diocèses, pour les paroisses, pour les paroissiens de prendre leur peinture, de prendre leur matériel de bricolage et d'aller nettoyer tout ça et d'aller l'entretenir. Je connais dans ma campagne du Limousin des croix rouillées, mais rouillées de rouillées, juste à côté d'une église. Et tous les dimanches, on passe devant dans l'indifférence. Alors, montre ta croix, commençons par entretenir celle d'avant 1905. C'est d'autant plus impératif que, justement, cet arrêt du Conseil d'État auquel vous faites allusion, si on le lit bien aussi, vient rappeler que tout ce matériel spirituel, on va dire, d'avant 1905, peut continuer à être restauré et entretenu. Mais ce n'est pas les mairies qui le feront, parce qu'elles seront terrorisées par les associations laïcardes, évidemment, de se mettre à restaurer le Christ rouillé qu'il y avait devant l'église.
Et pourtant, on assiste quand même à un phénomène, Christophe Hocheduval, c'est que les populations dans les villages, qu'elles soient catholiques, pratiquantes pas du tout, juste culturelles, ou, voire hostiles, sont souvent tout à fait unanimes dans la reconnaissance du fait qu'il faut entretenir le patrimoine. Ça se joue à ce niveau-là. L'église, l'attachement à l'église, au cimetière, à des choses qui maintiennent encore la vie de la communauté, aujourd'hui ça existe.
Oui, bien sûr, ben, c'est ce qui montre évidemment bien sûr qu'il
y a au-delà des divisions formelles.
Voilà, il y a un terreau, il y a de fortes potentialités qui ne demandent qu'à être justement, qu'on lui donne de l'engouement. Si dans chaque diocèse on montait une association d'entretien et de restauration des croix des vierges, vous verrez qu'il y aurait du monde qui arriverait.
Voilà, est-ce que ça existe, ça ?
Non, ça n'existe pas. Bon. Je connais à peine une association dans la Sarthe qui fait ça. Ce sont des gens qui ne vont jamais à l'église, qui se prennent d'amour de restaurer les croix. Ils font un travail extraordinaire. Et
comment
voilà.
Ça s'appelle ?
Alors, le nom de l'association, je crois, c'est peut-être Association de sauvegarde, sauvegarde des croix et calvaires de la Sarthe. Je la cite en exemple parce qu'effectivement, elle est une association fort sympathique. Eh bien, il faut qu'il y en ait 100 en France, une par diocèse, une par département, bon. Et on verra que les choses vont changer.
On pourrait soumettre l'idée au prochain archevêque de Paris.
Voilà, il n'y a guère évidemment que dans le département de la Vendée où souvent on se rend compte que d'eux-mêmes. En revanche, voilà, il y a un terreau qui a été évidemment travaillé par l'histoire et qui est encore reconnaissant envers ce patrimoine et qui l'entretient. Là, et vous pouvez vous prendre votre voiture, ce que je vous dis est tout à fait vrai, vous le vérifierez par vous-même.
La Vendée n'est pas le Limousin.
La Vendée n'est pas le Limousin. Alors la Vendée, bien sûr, c'est celle qui a lancé, créé ce fameux spectacle du Puy du Fou, qui est un peu à l'origine, moi, de ma conversion au spectacle vivant, dans un registre non confessionnel, non religieux, et puis... comme vous l'avez raconté, c'est ma mutation dans les années 2013-2014 à me dire ben, il faut aller à l'essentiel, faire un spectacle chrétien.
Et mais vous avez fait aussi de l'historique avec Richard Cœur de
Lion. Oui, voilà, je faisais des spectacles qui n'avaient strictement absolument rien de religieux, comme je vous dis encore une fois.
Au château de Chalut.
C'était le spectacle vivant au château de Chalut et dans bien d'autres endroits. Et maintenant, donc, effectivement, ce spectacle qui échoit, que je raconte dans le livre, vous serez dans la joie. Et là aussi, c'est un engagement. Hein.
Alors, attendez un mot, parce qu'il nous reste une minute. Yeshua, c'est pour quand, ce spectacle là,
alors, le prochain spectacle, c'était Noël 2018, que je le prépare et qui ne s'appellera pas Yeshua, ou peut-être la naissance de Yeshua, on verra bien. Mais le spectacle, il faut envoyer les chrétiens aussi voir du spectacle. Actuellement, il y a un spectacle.
Porte de Versailles.
Porte de Versailles, Pascal Obispo, Christophe Maratier. Il y a une petite polémique, là. Je voudrais juste en dire une seconde.
Rapidement. Allez-y, Christophe.
Bah, écoutez, dans le Figaro, il y a un marchand du temple, du nouveau temple, du temple des marchands des médias, qui a critiqué ce spectacle. Eh ben, il a tort, il faut y aller, il faut que les chrétiens se serrent les coudes et soient solidaires des producteurs et des réalisateurs qui osent encore faire du spectacle sur Jésus.
Donc Christophe Baratier, Pascal Obispo, vous êtes allés le voir et vous encouragez ceux qui nous écoutent déjà à y aller et puis à dire autour d'eux d'en parler. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Christophe et Hoche Duval. Vous serez dans la joie, c'est un beau titre en tout cas pour se mettre en route le matin de toute façon. Merci d'avoir été avec nous avec un point d'exclamation et ça s'appelle aussi le coming out chrétien d'un haut fonctionnaire aux éditions Arthège. Je vous dis à bientôt et bonne journée. Puis je vais regarder pour l'association de sauvegarde des calvaires dans la Sarthe, ça m'intéresse beaucoup.
Merci
je
beaucoup.
Pense que c'est une excellente idée. On en reparlera, merci.
Sur Radio Notre-Dame.